Vous écoutez l'épisode 124 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, nous plongeons dans le sujet brûlant du moment, dans le monde de la technologie, l'ambitieux projet Gemini de Google. Alors que l'intelligence artificielle se développe à un rythme fulgurant, Google n'est pas en reste. Après le succès retentissant de ChatGPT, la question se pose, Google peut-il rattraper son retard et même surpasser les attentes avec Gemini? Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur le projet Gemini, nous analyserons ses capacités, ses innovations et comment il se positionne face à ses concurrents, en particulier ChatGPT. Mais avant cela, nous tenions à remercier tout particulièrement Philippe qui nous a rejoint sur patreon.com/mychromebook et qui offre son soutien financier à mychromebook.fr au CKB Show. Si comme Philippe, vous trouvez que mychromebook vous aide à mieux comprendre votre Chromebook ou le monde autour de Google, rejoignez-nous sur Patreon à hauteur de prix d'un petit expresso, voire d'une baguette de pain. Bonsoir, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné ce soir pour le dernier épisode de l'année par Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ce soir?
Eh bien, je vais très bien, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, alors un petit coucou à tout le monde, bonsoir Didier, bonsoir Méziana, bonsoir Dominique. Bonsoir Alain, bonsoir Pierre, bonsoir à tous et évidemment bonsoir à Philippe qui nous a rejoint. Ah, j'ai vu, bonsoir Romain, notre membre depuis un an. Ça fait que Romain d'ActuTech est membre du CKB Show sur YouTube depuis plus d'un an. Merci à toi de nous avoir rejoint, de nous soutenir au quotidien sur YouTube également. Donc c'est génial, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour ce soir, donc n'hésitez pas à commenter l'épisode. Je suis sûr que vous avez un avis hein, sur Gemini, sur le ChatGPT, sur l'intelligence artificielle. Au global, vous allez voir, on a pas mal de choses à dire et ça va, j'imagine, plaire à beaucoup de monde. Olivier, quand je t'ai proposé ça, t'as pas hésité une seconde, le sujet, tu m'as dit ok, c'est parti pour Gemini. Comme ça, en quelques mots, qu'est-ce que tu en penses rapidement et qu'est-ce que ça évoque chez toi, Gemini ou l'intelligence artificielle?
Alors, l'intelligence artificielle, tu le sais très bien, et puis on a déjà fait des épisodes là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me botte beaucoup. Gemini, enfin les solutions de Google, je les attends de pied ferme. Et donc, Gemini, on en entend parler depuis plusieurs mois, faisait partie des choses que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Enfin, une info est tombée cette semaine. Donc voilà, on va en parler forcément.
Ouais, effectivement, et oui, on l'attendait tous. On se demandait quand est-ce que Google allait enfin proposer une alternative viable à ChatGPT ou à d'autres systèmes d'intelligence artificielle conversationnelle. Et là, aujourd'hui, il y a quelques temps, Google nous a annoncé, fait plein de petites vidéos autour de Gemini et leur intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous la décrire un petit peu ou pas? Enfin, est-ce que tu as déjà une idée un petit peu rapide à décrire à nos abonnés?
De Gemini?
Ouais, de Gemini.
Déjà, la chose la plus étonnante, c'est que avant de nous faire une annonce fracassante de l'arrivée de Gemini, Google avait annoncé 2-3 jours avant que finalement... Bon, ils allaient peut-être pas sortir ça tout de suite parce qu'ils l'avaient prévu avant la fin de l'année. Et puis finalement, ils se demandaient s'ils allaient pas le sortir l'année prochaine. Et voilà que 2-3 jours plus tard, ils nous sortent ça. Donc ça a été quand même une grosse surprise le soir du lancement. Moi, je l'ai appris que le lendemain matin. Et je l'ai appris via des vidéos qui sont sorties sur YouTube, qui ont fait rapidement le buzz, hein, notamment la vidéo avec le petit canard bleu, là, dessiné par Pichai, je crois. Et puis avec cette conversation qu'avait les mains qu'on nous montrait sur la vidéo, les différentes choses qu'il produisait, qu'il dessinait, qu'il faisait avec ses mains, et puis les réponses de Gemini. Et là, sur le coup, alors je sais pas si c'est parce que j'étais pas bien réveillé que j'ai vu ça au matin, mais je me suis dit waouh, sacrément bluffant. Tout de suite, je crois qu'on a échangé et je t'avais répondu waouh, la claque. Et puis, c'était avant de prendre du recul tout ça.
Ça, et c'est là où aujourd'hui on va revenir dessus parce que on a pris du recul, on a le temps, on a eu pris le temps de la réflexion pour justement un petit peu décortiquer cette vidéo et tout ce qui est a été dit autour de Gemini. Alors Gemini. Bon, je vais rentrer dans le sujet. Gemini, c'est un modèle de langage IA, hein, forcément. C'est quelque chose qui est très avancé. En tout cas, tout ce que je vais vous dire là, c'est Google qui nous le dit. Donc, à prendre avec le prisme de Google, hein, parce que Google nous dit que c'est l'outil le plus polyvalent, l'intelligence artificielle la plus polyvalente qu'ils ont à nous proposer. Donc ça, c'est plutôt bien déjà. On connaît, hein, on a eu déjà un premier lancement de Google, de leur intelligence artificielle avec Google Bard, donc qui est censé remplacer prochainement, enfin quand, on ne le sait pas encore, mais Google Search, ou s'intégrer en tout cas, si ce n'est pas remplacé, d'intégrer dans Google Search directement. Pardon. Et donc, ils nous sortent le Gemini.
Je me permets, en fait, c'est vrai que Google, moi, l'approche qui m'intéresse le plus de Google dans l'IA, c'est le côté de mettre de l'IA dans les différents outils, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les outils de workplace, un peu à la copilote de chez Microsoft, et puis via un agent conversationnel comme Bard. Et donc c'est cette approche globale, moi, qui me branche le plus dans l'approche de Google. Et c'est vrai que le fait d'avoir un modèle d'IA qui soit capable de faire du texte, de regarder des images, de faire des images, de traiter du son en entrée, en sortie, bref, c'est une promesse qui est vraiment très sexy et qui est très intéressante à suivre, quoi. Parce que il y a plein d'outils d'IA de partout. Il y en a pour la vidéo, il y en a pour le son, il y en a pour le texte. Et le fait d'avoir un outil qui regroupe tout ça et qu'ils mettent en plus à disposition dans la création de documents via les outils de la Workplace, de Google Docs, Google Sheets, etc. Forcément, ça, moi, j'attends ça de pied ferme.
Ouais, mais c'est exactement ça, hein. L'intégration, ça sera la force de Google par rapport à peut-être un ChatGPT, quoique, étant donné que Microsoft est derrière OpenAI, est avec OpenAI, en tout cas un gros actionnaire d'OpenAI, on le voit arriver, hein, progressivement dans Bing, dans Word, Excel et compagnie, on va le voir arriver, et donc Google a sa carte à jouer également pour pas mourir. Et en l'occurrence, donc Gemini, c'est donc un modèle de langage d'IA qui est donc il faut savoir qu'il existe deux modèles de langage, enfin deux IA différentes, hein. Il y a l'IA faible, hein, spécialement, qui est spécialisée dans une tâche, une seule, qui ne pourra pas faire autre chose. Tu lui demandes d'écrire un livre et sera incapable de faire un tableau, typiquement. Je résume simplement, hein, tu me dis si je me trompe, Olivier, t'hésites pas. Hein. Et puis, de l'autre côté, tu as les IA dites fortes qui sont, elles, capables de réaliser des tâches plus intellectuelles, on va dire, plus humaines, avec une manière un peu plus autonome, comme pourrait le faire un humain, réfléchir et aller, bah, tiens, le coup de pinceau peut aller. Et si je te dis fais un coup de pinceau à gauche, il saura que c'est un vrai coup de pinceau sur mon tableau.
Et Gemini, alors moi j'aime pas trop la distinction IA faible et IA forte. Je préfère parler d'IA spécialisée, hyper spécialisée, ouais. Et d'IA plus globale, parce que parfois les résultats obtenus avec une IA comme tu appelles faible, donc hyper spécialisée, vont être meilleurs que des résultats d'IA généraliste. D'ailleurs, ce qui se passe aussi, c'est que ChatGPT, par exemple, en fait, on se rend compte qu'il y a un noyau généraliste et puis finalement qu'ils ont mis plein de petits modules spécialisés autour pour justement avoir un meilleur résultat en sortie, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais c'est, t'as totalement raison. Spécialiser quelque chose, c'est toujours mieux. Ça te permet d'avoir besoin de moins de ressources d'ailleurs, puisqu'on le spécialise dans un domaine bien spécifique, et ça nous permet d'avoir des meilleurs résultats. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui va être plus généraliste et l'autre qui va être vraiment très détaillée, qui pourra aller plus en profondeur dans un produit. Gemini, donc lui, est classé un petit peu dans l'IA généraliste, l'IA forte, comme je l'ai nommé juste avant. Elle était conçue pour être multimodale. Alors, c'est le truc assez amusant. C'est là où ils se mettent vraiment en différence avec ChatGPT, qui n'est pas dit multimodal, en tout cas pas directement. On va pouvoir implémenter des choses. Il devient via des plugins, mais par défaut, il n'est pas multimodal. ChatGPT, c'est plus un un agent conversationnel, un, je ne sais pas comment on peut l'appeler, si tu as un mot plus, plus fort que le mien. Ah,
en fait, la dernière version de ChatGPT s'approche du multimodal aussi, dans le sens où on peut lui partager des documents, qu'ils soient PDF, qu'ils soient que ce soit des images, que ce soit du son ou ce que l'on veut. Et en sortie, il est capable de nous générer de l'image aussi, en s'appuyant sur son module DALL-E, DALL-E 3. Mais il n'empêche que dans la conversation ChatGPT, on a du multimodal. C'est un fait sans forcément utiliser des plugins. En plus, il y a la force des plugins, où là, ça fait de GPT finalement un raz-de-marée en termes de d'IA, quoi.
Ouais, tout à fait. Et c'est des petits, donc ces plugins, ces modules qui sont rajoutés. Alors, il n'a pas été créé comme ça au départ, ChatGPT. Au fur et à mesure, il s'améliore. Donc, dans la version ChatGPT 4, donc la version payante, hein, évidemment, tu peux maintenant intégrer du texte, de l'image, de l'audio. L'audio, je ne sais pas. Tiens, je n'ai pas essayé, mais j'essaierai. Bref, Gemini, donc lui, se dit multimodal et se met en différence avec ChatGPT. Donc, c'est Google qui le dit. Hein, je reprends leurs mots, ce n'est pas les miens. Qui s'est capable de traiter et de combiner divers types de d'informations comme le texte, le code, l'image, la vidéo, quoi d'autre, tout ce qu'on peut imaginer. Et il se décline en trois versions qu'on reviendra dessus après, l'Ultra, la Pro et la Nano, donc Gemini Pro, Ultra, Nano. Chacun serait optimisé pour un usage très spécifique. Ce qui est intéressant dans le modèle de Google, c'est qu'il est son apprentissage est automatique multimodal et ça a été fait sur un ensemble de données qu'il donne. Le chiffre est impressionnant et il le met en différence avec celui de ChatGPT. Et encore une fois, on pourra discuter un petit peu plus tard de pourquoi une telle différence, où sont-ils allés trouver ces différences. Et voilà. On va voir au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, quand on parle de Gemini, il faut bien comprendre que cette fois, on arrive, comme ChatGPT-4 pour ceux qui le payent, à traiter du texte, de traduire du texte, écrire différents contenus créatifs, répondre à des questions, aller créer du dessin, de l'image, de traiter de l'imagerie également, hein, savoir et deviner ce qu'il y a sur une image qu'on lui présente via une photo, une vidéo. Et ça, c'est assez bluffant. Moi, je trouve que c'est... ça a été très très étonnant comme tu le disais tout à l'heure sur leur vidéo. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait comme toi, je me suis dit waouh, ça y est, on y est quoi. L'informatique devient quelque chose de très humanisé. Alors j'ai vu dans le chat Didier qui nous dit une IA sera-t-elle humanisée. On pourrait en reparler. Qu'est-ce que l'humanisme dans un ordinateur? Est-ce que il y a que ça qui nous définit? Je sais pas. Mais voilà, donc en gros. Google Gemini, c'est un agent conversationnel, c'est une intelligence artificielle multimodale qui est capable de tout traiter finalement, tout ce qu'on lui donne, il va l'ingurgiter. Comment on dit
L'ingurgiter,
merci, pour pouvoir nous ressortir quelque chose au final plus ou moins intéressant en fonction des besoins. Est-ce que j'ai bien résumé, Olivier?
Oui.
Bon, ça va. C'est compliqué à résumer ce truc-là, hein, parce que c'est tellement large.
C'est ça. Le sujet est assez opaque. Et puis, il y avait déjà plein de points sur lesquels je voulais rebondir. Bon, je préfère qu'on avance un petit peu et on en reparlera. Mais effectivement, il y a plein de choses à dire sur ça, quoi. J'avoue, et je préfère le dire avant que tout le monde me tombe dessus, j'ai été bluffé, comme je le disais tout à l'heure et comme le disait Nicolas, par la vidéo. Et après, je suis redescendu de quelques étages quand même dans ma vision de Gemini. Et j'en voulais presque à Google de la façon dont ça s'est fait, de la façon dont ils l'ont présenté et finalement du résultat. On sait qu'ils sont pas forts en marketing, mais là ils ont touché le fond. Alors pas la vidéo, comme on l'a dit, c'était super bien fait, mais je préfère quand même prévenir que je risque d'être assez critique.
Voilà, alors justement, je mets en avant le contenu texte du chat ActuTech qui nous dit non, mais la vidéo était complètement scriptée, les gars, c'était du vent. On reviendra dessus, effectivement, Romain, tu as totalement raison. Enfin, c'est pas que du vent, mais il y a eu beaucoup de vent entre les séquences et on va revenir dessus. N'empêche qu'ils ont quand même travaillé un petit peu et ils nous proposent trois modèles de Gemini. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les trois différents modèles que Google nous a proposés?
Oui, alors ils ont fait un petit modèle qui a été, donc qui s'appelle Gemini Nano, qui est un modèle qui a été pensé pour les smartphones, notamment forcément la dernière gamme des pixels, les smartphones pixels de chez Google. Mais globalement, c'est un modèle un peu plus léger qui va pouvoir fonctionner sur des appareils qui ont des capacités et des ressources beaucoup plus limitées. Donc voilà pour le premier modèle. Après, ils ont Gemini Pro. Gemini Pro, donc, qui est l'offre. Là, c'est le langage marketing Google, hein, donc je vais mettre des guillemets. C'est l'offre polyvalente qui convient, à pas mal d'applications, à pas mal de publics. Globalement, ils ont sous-entendu et présenté les choses pour dire, bah, en gros, Gemini Pro, c'est ce qui existe, c'est Bing, c'est ChatGPT, c'est tout ça. Et puis Gemini Ultra, donc là qui est, comme le nom l'indique, le Nec Plus Ultra de l'IA, enfin c'est présenté comme tel, avec l'excellence de Google, l'outil parfait, le fleuron de la gamme, quoi. Et encore une fois, ça nous est présenté comme ça. Et donc ce modèle qui sera, c'est celui qu'ils ont le plus présenté et sur lequel ils se sont plus étendus, donc avec des performances, comme tu le disais, incroyable, se rapprochant de l'esprit humain, enfin bon, des choses, un discours à la limite du sensationnel, quoi. Voilà.
C'est ça, ouais. C'est exactement ça. On peut que les croire puisque on ne peut pas le voir en fait. On peut pas le toucher nous-mêmes du doigt pour l'instant. Gemini Ultra, et il nous donne des chiffres assez exceptionnels. Hein, d'ailleurs, hein. Il surpasse tous les autres. Ils ont entraîné leur Gemini Ultra sur des référentiels différents, donc 32 domaines à peu près de référencement pour prouver que Gemini Ultra était largement au-dessus de ce que tous les humains étaient capables de faire à 90%. Plus fort que tout le monde. Ils ont entraîné ça sur un MMLU, ouais, c'est ça, Massive Multi-Task Language Understanding, qui permet de vérifier la capacité de résoudre des corpus de sujets, en fait, comme les maths, la physique, les sciences, l'histoire, le droit, machin, tout ce que nous, humains, on a appris au cours de notre vie et qu'on est capable de redonner, de mettre du sens dans du texte. Et ben, Gemini Ultra est allé le faire et ils ont prouvé que 90% du temps, il était meilleur qu'un humain. C'est beau,
et donc,
quand même.
Et surtout, ils ont publié donc un tas d'exercices qu'ils ont fait faire à Gemini, des exercices de physique, des corrections de copies d'élèves en physique. Je crois que c'était de la mécanique, hein, de la mécanique physique. Il y avait de l'histoire, il y avait effectivement du droit, des choses comme ça, donc différents exercices. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait aller les voir et pouvoir voir le résultat, et surtout, le plus amusant, et c'est là où on va en venir quand on va parler un peu des comparaisons avec ChatGPT, ça permettait de faire les mêmes exercices à ChatGPT et puis de voir le résultat aussi.
C'est ça, ouais, et c'est là où c'est étonnant. D'ailleurs, parlons un petit peu des exercices qui nous les ont montrés en vidéo, d'ailleurs. Tu as vu la vidéo, comme moi, comme tous ceux qui ont Internet et qui s'intéressent un tant soit peu à l'intelligence artificielle, la vidéo est bluffante.
Le dessin du petit canard, après le fait de lui faire comprendre déjà ce que c'était, et puis ensuite de positionner le petit canard sur une carte du monde, le petit jeu avec le doigt qui désigne l'Australie, et puis le Gemini qui embraye sur un petit quiz sur les pays, je sais plus ce qu'il y avait, si le pierre feuille ciseau avec la main présentée. Et puis après, bon, d'autres petites choses. Après, ça s'enchaînait beaucoup plus vite, mais c'était essentiellement les deux trois premiers exercices proposés à Gemini, et avec les réponses que Gemini nous donnait à l'oral comme ça de façon instantanée, c'était absolument incroyable. Et là, on est obligé de faire un arrêt parce que
exact. Jean-Luc intervient. Il en a marre de parler d'IA ou de nous entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous fait une pause de au bout de 20 minutes. Merci Jean-Luc pour ton super sticker. Encore une fois, notre donateur généreux donateur. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc, si vous voulez faire comme Jean-Luc, hein, vous pouvez nous soutenir via les super stickers sur YouTube. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs sur YouTube pour quelques euros par mois. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais visiblement, Google nous reverse un petit peu d'argent. Et si vous voulez nous soutenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous pouvez aller sur patreon.com/mychromebook ou simplement, si vous n'avez pas envie de donner de l'argent, mais donner un peu de votre temps, allez simplement sur le salon Discord, échanger avec nous et entre vous, aider les autres utilisateurs qui seraient en demande de ressources ou d'aide pour utiliser leur Chromebook ou Chrome OS et pourquoi pas partager nos contenus sur les différents réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà là et encore là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube, à mettre des étoiles dans vos différentes applications de podcast. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Et puis, si vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict ou je ne sais quoi, ça nous fera toujours plaisir. Merci encore à Jean-Luc pour cette pause publicitaire. Merci.
Et j'ai toujours envie de profiter aussi pour lire les commentaires. ActuTech qui nous dit effectivement, on a tous fait waouh hein, sur la vidéo. Et puis, on a une petite chanson qui nous est soumise par Didier, c'est la danse des canards, effectivement, ouais. par rapport à cette vidéo. Donc, oui, effectivement, ça a été assez surprenant. Et le plus drôle, en fait, c'était de reprendre l'intégralité de ces exercices et de les faire par donc ChatGPT 4, 4.5 Turbo, là, la dernière mouture, et de voir ce que ça donnait. Et là, grande surprise, alors je vais dévoiler, hein, parce que je suis lancé.
Vas-y, fais.
ChatGPT sait faire absolument tout ce qu'a présenté Gemini Ultra, donc le truc qui n'est pas encore sorti, parce qu'on a présenté les trois Gemini, mais finalement, on ne dispose, alors en Europe, en France, d'aucun, parce que Bard, nous, est encore avec l'ancien modèle, Palm 2. Aux États-Unis, si avec un VPN, on peut se connecter à Bard, et effectivement, il tourne a priori sous Gemini, on se retrouve finalement avec un Gemini Pro, mais qui est, en termes de résultats, l'équivalent d'un ChatGPT 3.5 amélioré, quoi. Un petit peu amélioré. Ce que nous donne à languir Google, le Gemini Ultra, on nous dit ça, c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2024. Printemps, avant l'été 2024, on sait pas trop, c'est pas annoncé. Et ce truc qui n'est pas annoncé, qui n'est pas encore sorti et qui va peut-être sortir un jour, on se rend compte que le concurrent, il fait ça depuis plusieurs mois. Et il le fait très bien, le coup du pierre-feuille-ciseau. Vous pouvez prendre des photos de vos mains, le faire vous-même et les soumettre à ChatGPT 4. Vous verrez, il sait très bien faire. Le coup de faire un quiz sur une carte, ça marche très très bien avec ChatGPT. Et puis tous les exercices que Google a bien voulu nous communiquer, sur lesquels Gemini a fait des merveilles apparemment, on se rend compte que ChatGPT sait les faire et sait les résoudre de façon aussi impressionnante que Gemini. Donc finalement, le coup marketing de Google est intéressant dans le sens où on se dit bravo, vous êtes en train de montrer ce que les concurrents font depuis plusieurs mois et que vous nous promettez pour dans plusieurs mois, c'est-à-dire que ils sont en train d'avouer et de montrer que ils ont un an voire plus de retard et que ça s'arrange pas quoi, que le retard qu'ils ont accumulé dès le départ avec Bard, il est encore là et il est encore là pour longtemps.
Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. Hein. Je remets la vidéo. J'ai juste envie de reparler 30 secondes de la vidéo pour juste montrer ce que moi j'ai ressenti au moment où la vidéo est sortie. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'en fait on voit donc en contre-plongée, il y a une caméra qui pointe sur une table. On voit les mains de Sundar Pichai effectivement sur la table. Il va dessiner des petits traits. On voit Gemini qui lui dit ceci est un trait courbe. Il fait un autre trait. Ceci est un autre trait courbe qui assemble l'ensemble. Ah tiens, tu fais un oiseau et on voit ce raisonnement petit à petit, comme nous on pourrait le faire d'ailleurs, de cette intelligence artificielle qui fait au fur et à mesure, qui reconnaît petit à petit ce qu'on lui propose, et puis à un moment il lui dit c'est un oiseau, et là il met des petites vagounettes derrière, il fait ah non c'est pas juste un oiseau, c'est un oiseau qui va sur l'eau, et là il le peint en couleur, il fait ah c'est un canard, voilà, on en arrive là, et c'est là que c'est assez bluffant, parce qu'on a l'impression, en tout cas c'est ce que moi j'ai eu à ce moment-là, que c'était naturel et instantané. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choses travaillées. C'est que directement, le truc te trouvait immédiatement la réponse à ce que tu lui faisais. Le pierre-feuille-ciseau, pareil, l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, il montrait les différentes gestuelles en vidéo à l'intelligence artificielle, à Gemini, et Gemini lui dit « Ah, bah tiens, tu veux jouer à pierre-feuille-ciseau ?» Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'en fait, ils ont décomposé ça en images, comme le fait ChatGPT, et en l'occurrence, ChatGPT ne traduit pas encore l'image, la vidéo, mais les images correctement. Et moi, j'ai eu l'impression dans la vidéo, et c'est là où il y a eu un petit peu mensonge, anguille sous roche, ver de terre sur gravillon, où... en fait, j'ai eu l'impression que la vidéo était traitée en temps réel.
Oui, c'est là où, où on s'est senti un petit peu floué, parce que effectivement, on a l'impression déjà que Gemini parle, ce qui n'est pas le cas.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ils lui ont donné une voix qui n'est pas la
sienne. Ils lui ont donné une voix. C'était un acteur en fait qui reprenait les réponses de Gemini. Et puis ils ont même rajouté entre guillemets un petit peu de texte intermédiaire parce que globalement dire ça c'est une courbe, etc. Alors que finalement ils lui ont présenté le dessin et puis il a raisonné sur le dessin final. Donc ils ont rajouté des petits textes intermédiaires qui donnent vie finalement à cette IA, qui nous donne l'impression de plus d'humanité pour le coup, et alors que c'est non, en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et alors certes le résultat est le même, on est bien d'accord, tout comme pour GPT, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. On nous a un petit peu roulé dans la farine sur ce coup-là.
C'est ça, pareil, la rapidité de réflexion, si on peut appeler ça de réflexion, ou de travail, a été complètement trafiquée, puisque Google a avoué sur ses différentes interventions après cette vidéo, avoir coupé les blancs, en fait, pour rendre la vidéo plus fluide. Du coup, on est un... Ah. C'est le cas et...
On te perd, Nico, on te perd.
Ils sont tirés encore une balle dans le pied, comme ils avaient pu le faire avec Bard.
Ouais. Bah oui, c'est le sentiment qu'on est beaucoup à partager. Je vois qu'effectivement, ActuTech a la même réflexion. Et il y avait eu dans le Discord de My Chromebook, que je ne ferai que conseiller à tout le monde, un petit échange autour de ça, effectivement. C'est le sentiment qu'on a avec le recul. Encore un acte manqué, quoi.
Ouais, j'ai mon ordi qui est passé d'un Wi-Fi à un autre. Il a décidé de changer entre-temps. L'intelligence artificielle nous écoute, Google nous écoute. Et sur mon Chromebook, ils ont décidé de passer sur le Wi-Fi du voisin ou je ne sais quoi. Et donc, ils m'ont coupé la parole. Comme quoi, on n'a pas forcément le droit de critiquer tout le monde, visiblement. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Mais... donc, donc, voilà. donc, du coup, oui, on est, à mon avis, très, très en dessous de ce que sait faire Google ChatGPT actuellement. Ils ont biaisé les résultats rapidement sur la vidéo pour nous en mettre plein la vue avant la fin d'année. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça très dommage parce que Bard, c'est un super outil, il marche bien. Je ne sais pas si tu l'as abordé rapidement, mais il marche quand même très, très bien, l'air de rien. Sauf qu'il s'était tiré une balle dans le pied avec une démonstration qu'ils avaient mal travaillé en amont. Je sais plus exactement, je crois que c'est une histoire de satellite ou autre chose comme ça qui était mal référencée. Et aujourd'hui, ils ont tellement bien travaillé leur vidéo qu'ils se sont tirés une balle dans le deuxième pied parce que cette vidéo est complètement truquée. Et c'est dommage parce que je suis certain qu'ils ont un produit exceptionnel derrière. Ils se sont encore lancés un petit peu à la hâte en se disant, oh, la première fois, on s'est eu, il faut qu'on travaille dessus pour pas se faire avoir une deuxième fois.
Je pense que ils communiquent toujours aussi mal, comme tu viens de le dire, hein, que ce soit pour le lancement de Barn ou pour celui-là. Et je pense que ça a été fait un peu à la hâte, parce que ils sont en train de se rendre compte qu'ils se font doubler et que ça va très vite de l'autre côté, notamment chez le concurrent direct qui est pas vraiment OpenAI, hein, qui est Microsoft. Microsoft est en train de de mettre du ChatGPT 4 et 4.5 un peu partout avec son compilote, avec Bing, etc. Dans les recherches, il n'est pas impossible que les stats sur les recherches faites en ligne commencent à fléchir du côté de chez Google et à rebondir un peu du côté de chez Bing. Ça fait bon chez Bing.
On fait une chanson.
Et du coup, elle est nulle celle-là quand même. Du coup, je pense qu'ils se sont dit, il faut qu'on annonce un truc. Ouais. Et puis, ça fait pire que mieux. Ça me choque pas d'attendre que Google finisse de bosser sur ces outils, nous présente des outils qui soient finis, qui soient bien intégrés partout dans leurs outils Workspace, dans la recherche, etc. On voit qu'ils travaillent très bien dans l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu l'info aussi par rapport à cette intelligence artificielle qui a sorti je ne sais combien de nouveaux matériaux. Donc une intelligence artificielle de chez Google qui a inventé plusieurs centaines de milliers de nouveaux matériaux, de nouvelles structures cristallines, dont plusieurs dizaines de milliers qui sont réalisables en laboratoire. Et qui peuvent créer des sacrés bons en avant sur même l'électronique grand public, enfin l'électronique tout court, la recherche, etc. Donc ils sont capables de trucs complètement dingues, et derrière, ils gâchent le plaisir avec ce genre d'annonce, avec ce côté « il faut qu'on se dépêche à rattraper notre retard sur Microsoft et sur OpenAI ». Et puis ça fait plouf.
Ouais, effectivement. Alors, je te coupe deux petites secondes parce qu'on a un super don de Mister Robot qui nous dit, qui nous donne de l'argent pour qu'on s'achète une IA qui fonctionne. Merci, Mister Robot, merci, Laurent, pour ton soutien. Ça fait toujours chaud au cœur. Mais oui, t'as raison. Et il y a Tutek, il y a Romain qui nous dit pourquoi elles se sont dépêchées à annoncer quelque chose comme ça en fin d'année. On leur a rien demandé. On allait très bien comme ça jusqu'à là. Et aujourd'hui, on est contre Google, alors que d'habitude, on les aime quand même plutôt bien. Ils font des trucs géniaux, comme tu le dis. Ils inventent des matériaux. Ils travaillent sur la santé en créant des nouveaux médicaments, alors pas encore homologués ni mis sur le marché. C'est même pas l'idée, mais ils vont chercher des nouvelles solutions pour soigner certaines maladies. Ils ont des trucs exceptionnels. Mon impression, comme tu le dis, ou comme Romain, que en fait, il y a OpenAI derrière, il y a Microsoft tellement sur leur talent qu'ils ont peur de perdre le marché grand public et de passer sur ce plan, en fait.
Alors, je ne sais pas si ton Chromebook essaie de repasser sur le réseau du voisin, mais ça rebug un petit peu.
Ouais, je vois ça, c'est dingue.
Tu peux checker. Mais effectivement, Romain a résumé en une phrase ce que j'ai mis trois minutes à dire. Mais oui, on n'a rien demandé. Ils ont sorti un truc alors qu'on était prêt à attendre 6 mois, juin 2024, sans aucun problème, du moment qu'ils nous sortaient un truc propre, quoi.
Ouais, me revoilà, je pense. Effectivement, j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Donc, voilà, on voulait simplement vous parler de l'intelligence artificielle parce que Google en a parlé et on aurait préféré peut-être qu'il se taise encore un petit peu et qu'il nous sorte un truc exceptionnel dans 2, 6 mois, 1 an peut-être. Il devait peut-être le faire. Ils ont peut-être eu peur. Peut-être leurs actionnaires leur demandaient de le faire. C'est compliqué. C'est compliqué.
Ouais, on ne sait pas, effectivement. Peut-être.
Ouais, il panique, comme dit Romain.
Oui, je pense qu'il y a une forme de pression autour de l'IA. De toute façon, les news informatiques, enfin les news web, etc., tournent autour que de ça en ce moment. Et je pense qu'ils se sont sentis obligés de sortir un truc, tout simplement. Après, ils ont essayé d'enrober ça vachement bien. Tu avais préparé, là, dans les notes de l'émission, les différentes caractéristiques avec un comparatif avec ChatGPT. Même là, ils sortent des sources dont on ne sait pas où ils sont allés les chercher. Ils disent que la taille de l'ensemble des données qu'ils ont utilisées dépasse les 1,56 tera, je ne sais pas quoi, teraoctets de données. À mon avis, c'est fort probable, mais ils comparent ça à 600 gigas pour ChatGPT. En fait, ChatGPT n'a jamais communiqué sur la montée d'informations qu'ils ont utilisées pour entraîner leur modèle. Donc, on sait que c'est beaucoup plus que ça, étant donné les résultats qui sortent. Donc, là encore, qu'est-ce qu'ils ont comparé ? Est-ce qu'ils ont comparé des choux avec des carottes ? On ne sait pas.
C'est fort possible. On voulait amener une dernière petite chose au niveau de l'IA, alors qui n'est pas proprement parlé de Google ou de ChatGPT. Il y a l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne et le Parlement européen qui ont enfin voté un accord de politique autour de la législation sur l'intelligence artificielle au niveau mondial, hein, quand même. L'Union européenne au niveau mondial, on sait que le poids que ça peut avoir, surtout dans la législation, hein, puisqu'on est plutôt fort. Hein. On est précurseur sur la RGPD, la DMA, enfin des solutions comme ça qui aujourd'hui protègent le consommateur et l'utilisateur des différents de protections de données. Et puis prochainement, donc sur les usages des intelligences artificielles, donc ils ont voté deux approches différentes. L'une pour s'assurer de la qualité des données qui ont été utilisées pour éviter de voler le droit d'auteur, enfin d'octroyer le droit d'auteur à la bonne personne. Un peintre, si on travaille avec, si on a entraîné notre algorithme sur les techniques d'un peintre, il faut qu'il soit mis en avant et qu'il soit rémunéré aussi également. Et puis de l'autre côté, ils sont une autre loi qui elle est vise plutôt à les grosses machines, hein, comme OpenAI, GPT. Le premier, c'est sur le petit acteur principalement, mais qui vise les grosses machines qui pourront sanctionner toutes les grosses entreprises j'arrive pas à trouver mes mots, attendez, ça j'ai ma connexion internet qui clignote à droite, ça me perturbe. J'ai l'impression que ça va couper à toutes les deux secondes. qui veut vérifier que l'humain sera au cœur même de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui ne mettra pas en danger l'homme en fait avec les différents usages de l'intelligence artificielle. Donc en gros, on se retrouve pas avec un Terminator en face de nous, quoi.
Compris aussi de la première, c'est surtout qu'ils veulent que tout ce qui est publié et qui est issu de l'intelligence artificielle, ça soit clairement mentionné,
identifiable.
C'est-à-dire qu'une image issue de DALL-E 3 doit être mentionnée comme étant une image générée par l'intelligence artificielle, un texte, même chose, pour que ça soit clair pour le lecteur ou pour la personne qui regarde la vidéo, qui écoute le son ou qui regarde l'image. Donc, effectivement, y a le fait aussi qu'ils veulent protéger l'humain par rapport à l'IA, ce qui est une noble tâche. Après, dans les faits, dans la loi, dans le concret, le fait qu'il y ait un copyright qui soit clairement mentionné sur les choses qui sont issues de l'intelligence artificielle, ça peut s'appliquer, encore que on se rend compte que quand on soumet un texte à des outils qui sont censés nous dire si le texte est issu de l'humain ou d'une intelligence artificielle, les résultats sont pas fameux. Il y a beaucoup, beaucoup de textes, et notamment sur les dernières versions de GPT ou de Claude 2, qui passent largement ce type de test. L'image, c'est encore plus compliqué. Les droits d'auteur à l'origine, on le voit bien, hein, avec les procès qui sont tentés à droite à gauche, pour l'instant la justice n'a pas d'armes pour répondre à tout ça. Donc l'intention est bonne, maintenant comment ça va être traduit dans la loi, ça risque d'être un peu compliqué.
Effectivement. Ouais.
Bon, après, il y a aussi une protection par rapport au suivi des visages, notamment pour tout ce qui est vidéosurveillance, pour que l'intelligence artificielle ne permette pas de traquer trop facilement les gens. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Maintenant, il faut que ces textes européens passent dans la loi de chaque pays. Et là, ça va être compliqué, notamment sur ce dernier aspect, parce que les pays cherchent à se protéger aussi, notamment comme en ce moment face au terrorisme. Et l'utilisation de l'IA dans la vidéosurveillance, c'est une arme vraiment, vraiment très utile, notamment dans les aéroports, pour pouvoir voir qui passe, qui ne devrait pas être là. voilà. Il y a des pays comme la France ou comme l'Allemagne qui risquent de ne pas valider ce type de loi juste pour ça.
Ouais, effectivement, c'est assez compliqué. Il y a Actutec qui nous dit qu'il supprime le vide juridique, mais ce sera difficilement applicable pour le moment. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Est-ce qu'on passe à notre sujet ?
Oui.
Dans ce sujet, et ben écoute, on va donner un petit peu de baume au cœur à tout ça parce que là, on a quand même
critiqué. On a un peu plombé l'ambiance.
Ouais, c'est dommage. Alors que c'est pas du tout notre façon de faire habituellement. Alors du coup, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Et c'est toi qui nous avais proposé le sujet. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on le reporte parce que des fois, on a des sujets qui nous prennent énormément de place et de temps. Et aujourd'hui, tu voulais nous faire part d'une de tes passions. Alors t'en as beaucoup, comme moi, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, mais il y en a une qui est plus débordante qu'une autre, c'est tout ce qui est jeu de société, jeu de rôle que tu pratiques maintenant en informatique, grâce d'ailleurs, en l'occurrence, au Chromebook. Comment tu peux nous régaler ?
Alors, en fait, je me suis dit, on approche de Noël, c'est le dernier épisode avant Noël, donc on va parler un peu de jouets. Ouais, on va placer les jouets sous le sapin. Les jouets, pour les grands comme moi, c'est les jeux de société, les jeux de plateau, on dit maintenant. Les jeux de société, ça s'utilise plus trop comme appellation. Mais les jeux de plateau, les jeux de cartes, etc. Et bien sûr, les jeux de rôle. Je voulais parler de tout ça. Alors, vous allez me dire, ça n'a un petit peu rien à faire dans une émission consacrée au Chromebook. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, parce qu'on peut très bien pratiquer ces passions que sont le jeu de plateau, les jeux de rôle sur des Chromebooks. D'ailleurs, moi, je le fais couramment, voire quasi quotidiennement, j'utilise mon Chromebook pour faire des jeux de plateau et pour faire du jeu de rôle. C'est vrai qu'on imagine plus ça autour d'une table avec des amis, avec la famille, mais parfois on est tellement passionné et que la famille on a un petit peu ras la casquette et puis les amis on les voit pas forcément tous les jours non plus, donc on se retrouve tout seul avec notre passion et on se dit tiens, je ferais bien une partie de Race for the Galaxy, mais comment je fais alors que personne ne veut jouer avec moi, que je suis un pauvre Calimero. je dégaine mon Chromebook parce que lui il est toujours prêt à jouer avec moi. Je voulais parler de ce sujet que sont les jeux de plateau et les jeux de rôle sur Chromebook. Déjà, il faut savoir que pour jouer aux jeux de plateau, on a plein de possibilités sur Chromebook. La première des solutions que je voulais vous proposer, c'est les applications, parce que les applications Android, il y a pas mal d'applications Android qui sont des adaptations de jeux de plateau.
Monopoly, par exemple.
Par exemple, alors tu vas me fâcher tout de suite parce que forcément tous ces vieux jeux là, c'est pas trop de ça dont je vais parler. Le Monopoly, Uno, les échecs, tout ça, les Yahtzee, vous avez des applications Android pour jouer à tout ça. Mais moi j'allais parler de jeux de plateau un peu plus modernes un des premiers jeux de plateau de cette ère moderne des jeux de plateau, c'est le Colon des Catanes. Je ne sais pas si tu as déjà joué Colon des Catanes, Nico.
Alors, j'y ai déjà joué, mais c'était un jeu de plateau avant.
C'est un jeu de plateau, oui.
Donc, je l'ai joué un petit coucou au jeu de la Comté dans ma région où je jouais sur des vrais plateaux. On avait des grandes tables, c'était génial.
Sache que tu peux jouer au Colon des Catanes sur ton Chromebook contre l'ordinateur ou même avec d'autres personnes. Il y a des applications pour ça. Dans les notes de l'émission, vous aurez tous les liens. J'en ai utilisé deux, qui sont Catan Universe et Catan Classique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de stratégie où on est embarqué dans une course au développement sur une île, l'île de Catan, contre des adversaires. Et donc, l'idée, il est de faire des routes, de monter un peu son économie pour devenir les riches propriétaires sur l'île de Catan. Il y a aussi des jeux de cartes. Un des premiers jeux qui avait fait sensation dans la vraie vie avec des vraies cartes, c'était le Magic. Jeu Dominion. Alors Magic, là aussi c'est possible de jouer. Il doit y avoir une application pour ça. Je connais pas bien moi, mais il doit y avoir. J'ai déjà vu passer des choses. Donc on peut très très bien jouer à Magic sur notre Chromebook. Non, là je parle de Dominion, qui est un jeu de deck building. Je sais pas si ça te parle. Alors faut pas trop me lancer sur ces trucs là parce que là je vais devenir interminable. Sinon... mais sachez qu'il y a une application qui est pas mal faite pour jouer à Dominion. Après il y a plein de jeux, hein. Il y a Carcassonne pour ceux qui connaissent, Seven Wonders, Marachiabo, Talisman, Six qui prend, One Deck Dungeon, j'en passe, il y en a des brouettes complètes, pas mal de reprises comme ça de jeux de plateau qui ont fait des cartons. Et moi, je vais mettre simplement mes deux chouchous en avant. j'ai déjà parlé de Race for the Galaxy, qui est un jeu de cartes où on doit développer son camp, hein, et coloniser l'espace. C'est une course, c'est-à-dire qu'il faut être en même temps doué pour se développer, mais il faut le faire vite. Et c'est vraiment un jeu avec des mécaniques complètement folles, super intéressant. Et je ne peux que vous le conseiller, que ce soit en vrai ou l'application Android. Et le deuxième, c'est Terraforming Mars, qui est un jeu de plateau, là aussi, avec... un champ des possibles assez impressionnant. Là, Terraforming Mars, on va simplement aller terraformer Mars. On est propriétaire d'une méga corporation, comme les autres joueurs, et on va faire en sorte de coloniser Mars et de la terraformer. Et une fois que Mars est terraformé, eh bien, on va pouvoir gagner le jeu. C'est un système de points de victoire, c'est superbement réalisé et l'application Android est vraiment parfaite. Les IA sont suffisamment bien dosées pour être de plus en plus difficiles. Franchement, je ne peux que conseiller. Et il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ai pas parlé de Pandémique, d'Agricola, de Splendor. Enfin, il y en a comme je dis, toute une brouette. Il y a vraiment de quoi s'éclater juste avec le premier sujet qui sont les applications Android sur le Chromebook. Et l'avantage du Chromebook, c'est quand même la taille de l'écran, contrairement à un téléphone Android.
C'est ça. Et tiens, j'ai une question. Je rebondis dans le chat. Hein, on nous dit y a peut-être une version officielle sur Android de Catan. Hein, et puis, que des bons jeux. Bravo, ton listing plaît, hein, puisque a priori, tu n'as listé que des bons jeux. Donc, on peut jouer sur un Chromebook avec des super bons jeux facilement. Moi, j'ai une question. Moi,
ça empêche pas de les avoir en vrai. Hein.
bien sûr, on peut acheter les deux. Moi, j'ai une question. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est l'interaction avec les autres. Comment ça se passe au niveau de l'interaction? Est-ce que je peux échanger si je ne suis pas avec un humain en face de moi, enfin, ou joue avec un humain? Est-ce que je peux discuter? Est-ce que j'ai un chat vocal?
Non, sur les applications Android, on est vraiment sur... on joue contre le programme, quoi. On joue contre des joueurs virtuels. Okay. Ce qui ne va pas être le cas de la deuxième solution qu'on peut utiliser pour jouer à tous ces jeux sur notre Chromebook. Il faut savoir qu'il y a la possibilité, il y a des sites qui référencent tout un tas de jeux et qui nous permettent d'y jouer. Celui que moi j'ai relevé, alors il y en a d'autres, hein, mais celui que moi j'utilise, c'est Board Game Arena. C'est un site internet donc, qui est super bien foutu, qui est français, de mémoire, et qui propose, accroche-toi à ton siège, Nico, 760 jeux de société qui sont jouables en ligne directement. Et là, pour le coup, tu vas jouer contre d'autres joueurs qui sont connectés à la plateforme.
C'est dingue.
C'est vraiment la caverne d'Ali Baba de l'amateur de jeux de plateau, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des petits jeux simples, Ouais, je suis tout flou, je te confirme, Didier, c'est ma caméra qui fait des siennes.
Elle veut plus me voir. Nous...
J'ai changé de place. Peut-être qu'elle veut un autre profil, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Ça déconne. C'est pas la faute du Chromebook, c'est la faute de la caméra Logitech.
C'est la soirée bug.
ça va revenir. Elle va faire le focus, puis ça reviendra. Donc, bref, ouais, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba de l'amateur du jeu de plateau. On joue vraiment contre des vrais gens. Et puis, il y a un système de niveau. Donc, quand on est débutant à un jeu, on va jouer contre d'autres débutants. Et quand on est expert à un jeu, on va pouvoir jouer contre des experts et puis faire des parties vraiment, vraiment passionnantes, quoi. Donc là, je me suis pas amusé à lister tous les jeux parce que, encore une fois, il y en a 760. Globalement, je sais pas comment ils font avec les droits d'ailleurs, mais ils arrivent à sortir des versions informatiques comme ça sur leur site de jeux très très récents. Donc ça peut être sympa aussi les règles qui sont expliquées. Donc, le fait de commencer à jouer, ça permet de tester des jeux avant de les acheter en vrai. Parce que, bon, les jeux de plateau, c'est un budget. donc, ça peut permettre d'essayer des jeux comme ça avant de les acheter. Moi, je m'en sers souvent comme ça. Et puis, je m'en sers pour jouer contre des vrais gens aussi. Voilà.
Et donc là, je suis sur le site là. Leur site déjà, c'est une PWA. Donc il y en a qui vont adorer ça. Mais c'est gratuit complètement. J'ai pas vu de prix. J'arrive pas à trouver de prix.
Moi, j'y ai toujours joué gratuitement. Ouais.
Ouais. Je cherche, mais je ne sais même pas combien ça coûte. Donc ça a l'air assez exceptionnel hein, quand même. Donc bonne solution. Allez sur l'application et puis installez-la sur votre Chromebook. Tiens, je vous le mets dans les notes de l'émission. Tac, dans le chat pour ceux qui le veulent. Hop, le voilà. Quelles autres solutions on peut avoir pour jouer sur mon Chromebook ?
Donc voilà pour les jeux de plateau. Alors si avec ça vous n'avez pas déjà perdu l'intégralité de vos journées, si vous êtes passionné comme moi sur les jeux de plateau, il y a moyen de s'éclater des heures et des heures, de ne plus voir le jour. Après, les jeux de plateau c'est une chose, mais comme tu le sais, ouais, je suis revenu en clair, ouais. Je sais pas, comme tu le sais, Nico, moi, il y a une autre passion qui est dévorante, c'est le jeu de rôle. Et le jeu de rôle.
J'en ai entendu parler.
Alors là aussi, hein, normalement, ça se joue autour d'une table avec des potes, et je le fais avec mes copains dans la vraie vie. Sauf que là aussi, la passion est un peu trop dévorante. Et parfois, on a des joueurs qui sont éloignés. Je joue, par exemple, j'ai cette chance-là de jouer, de faire des parties de jeu de rôle avec mon fils. Mon fils se trouve à Lille. Donc, moi, habitant Tours, c'est un peu plus compliqué. Du coup, on fait du jeu de rôle, mais en ligne, avec des copains, avec mon frère qui se trouve à Bourges, mon fils qui se trouve à Lille, et puis, etc. On se réunit autour d'une table virtuelle et on fait nos parties de jeu de rôle. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, on avait fait l'expérience avec Nico, Sylvain, Tim et Ask. On avait fait une partie comme ça qu'on peut retrouver dans le flux YouTube de My Chromebook, je crois.
Bien sûr, je l'ai laissé parce que j'ai gagné. J'ai fait des coups de maître, des coups critiques assez exceptionnels. Donc, je ne pouvais pas supprimer cette vidéo. C'était impossible. C'était extrêmement sympa. C'est une première pour beaucoup d'entre eux. Et moi, j'ai adoré. C'est ce côté. J'ai retrouvé le côté que je retrouve autour d'une table quand je lance les dés. Et malheureusement, je suis comme toi. Je ne peux pas le faire parce que tout le monde est trop éloigné. Ceux qui ont la même passion que moi ne sont pas toujours près de moi. Et en jouant ensemble, j'ai retrouvé ce côté hyper intéressant de passer une soirée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais quand ça s'est terminé, on a mis un peu de temps à démarrer parce que c'est particulier, on est chacun de notre côté, on n'a pas cette ambiance, et elle vient petit à petit, et à la fin, on se dit, mince, c'est déjà fini, quoi. J'aurais aimé que l'aventure dure plus longtemps.
Et pourtant, on a dû jouer 2h30, un truc comme ça.
Ouais, un truc comme ça, mais tu vois, j'aurais aimé jouer plus longtemps quand on a tué le dernier monstre qui gardait... Je vais pas spoiler, mais aller regarder la vidéo, mais quand on a terminé la partie, je me suis dit, c'est dommage, on aurait pu peut-être aller faire une autre quête... dans la foulée, ouais. Mais parce que j'étais bien parti en plus, j'avais des lancers de hache exceptionnels, un jeu de jambes magnifique. Enfin, bref, et voilà. Mais c'est dommage. Mais par contre, j'ai apprécié le fait de pouvoir jeter les dés, que tout le monde voit le résultat. Vraiment, on était dans le virtuel, mais exactement de la même manière que on l'aurait fait autour d'une table entre amis à 5, 6 autour d'une table.
Voilà, et donc ces tables virtuelles, moi j'utilise Roll20, donc R-O-2-L 20 comme 20, comme le D20 qu'on utilise souvent dans les jeux de rôle. Donc c'est une table virtuelle, pardon, là aussi gratuite à la base. Il y a des options payantes, mais ça s'utilise très très bien gratuitement. Et ça permet de faire du jeu de rôle comme ça, de se retrouver. Généralement, je mets avec un Google Meet et puis la table virtuelle à côté. Et puis, on discute, on joue. Ça permet de montrer aussi des plans, de montrer des images en utilisant la table virtuelle pour que l'immersion soit parfaite. On peut déplacer des pions. Enfin bon, bref, on peut faire un tas de trucs sur cette table-là. Il y en a d'autres là aussi. Bon, là, moi, je vous donne celle que j'utilise, hein, donc c'est Roll20 en ce qui me concerne. Et voilà, ça permet de faire des parties de jeux de rôle endiablés. Si vous savez pas ce que c'est le jeu de rôle, bah, encore une fois, référez-vous à cette vidéo. Et puis, Actutex, ça serait cool d'en refaire. Et je lance d'ailleurs l'invitation de refaire une partie de jeu de rôle. Je sais pas si Nico, ça te branche.
Ah bah, évidemment.
Et évidemment. Donc, on pourra remonter ça. Je créerai un fil sur le Discord pour qu'on puisse rameuter du monde, qu'on puisse se faire une partie, je sais pas, en janvier, courant janvier, par exemple.
Par exemple, oui, il suffit de trouver du monde. Et puis, dès que tout le monde est partant, let's go. Le travail le plus dur à faire, c'est toi qui vas le faire. Tu seras encore le meneur de jeu.
Oh bah oui, comme ça, moi, c'est le rôle que je revais le plus souvent, et puis ça permet à n'importe qui ne connaît même pas le jeu de rôle de venir tenter sa chance.
Oh bah c'est cool, écoute, on ira
le 25 décembre, j'ai autre chose de prévu.
Ouais, il y a un autre truc, un autre jeu de rôle peut-être. Ok, c'est cool. Donc, pas mal de choses. Les applications Android, les applications... Ah, il y a Mathieu qui nous dit « J'adore le... » Alors, attendez, ça va trop vite. « J'adore le jeu de rôle. » Alain qui nous dit « Newchi. » Alors, je ne sais pas si c'est de l'italien. Ne pas remettre son titre en jeu. Ah oui, moi, j'aime pas ça. Et Mister Robot qui est une histoire sur un père. Comment... Tu es le père Noël.
Non, il est encore utile, le papy.
comment il va m'amener mes cadeaux après? Non, mais oui, effectivement, sur le salon Discord, allez voir. On ouvrira un salon exprès pour ça. Enfant, les médias disaient que les jeux de rôle étaient dangereux.
Je suis un vieux schnock et j'ai connu les débuts du jeu de rôle, donc les premières boîtes Donjons et Dragons et puis tout ça. J'ai commencé le jeu de rôle moi en 82 ou 84, je sais plus. Y avait des clubs de jeux de rôle dans les collèges à cette époque-là et ils ont été fermés parce que le jeu de rôle a été diabolisé. Il y a eu des scandales comme quoi des rôlistes fait des choses dans les cimetières. Enfin bon, bref, il y avait toute une mauvaise presse sur les jeux de rôle. C'était les jeux vidéo à l'époque, mais en puissance 10 000. Et effectivement, les clubs de jeux de rôle avaient été fermés par les mairies et par les collèges. On était des satanistes, on était des je sais pas quoi. Effectivement, ouais, c'était une période un peu bizarre. Il y avait même eu une émission qui était passée à la télé pour monter le jeu de rôle comme ça en épingle. Et tous les parents commençaient à regarder leurs enfants rôlistes de travers. Nous, on disait, mais non, c'est sympa, vous savez. Et puis voilà, non, on était devenus des dangereux délinquants.
Ouais, c'était les jeux vidéo, c'était ça, c'était plein de choses, hein, je me souviens. Moi, je me souviens d'un cas, moi j'incarnais un barbare, mais j'incarne toujours un barbare, moi, dans tous les cas, parce que je suis un gros bourrin dans tous les trucs. Et quand je leur disais... On va t'allonger. C'est pour compenser que dans la vraie vie, je peux pas l'être... je ne suis pas composé pour... donc je prends le personnage opposé à moi-même et je me souviens avoir parlé j'en parlais un peu quand j'étais en cours et je lui disais ah mais moi je prends toujours une hache à deux mains parce que je trouve ça bien, je tournoie sur moi-même. Et là il y a le prof qui nous a regardé avec des gros yeux en nous disant non faut pas faire ça, c'est dangereux. Non mais c'est un jeu, monsieur.
Ah, Romain lui il sera le voleur de la troupe,
voilà, il sera shipper. Ok, c'est cool. Bah, merci en tout cas pour ce retour d'expérience sur les différents jeux. Et évidemment, on pourra rajouter des jeux. Moi, tu vois, dans le jeu de rôle, je jouais à Cyberpunk 2077 à l'époque. J'adorais l'univers Cyberpunk et il est sorti en jeu vidéo. On peut toujours s'immerger dans ces différents jeux autrement, que ce plateau ou jeu de rôle ou jeu vidéo avec nos Chromebooks, et ça, c'est juste exceptionnel.
Et je l'ai fini il n'y a pas longtemps, Cyberpunk 2077.
Attention, il y a une nouvelle DLC qui est sortie entre-temps.
Oui, c'est pour ça qu'il fallait que je finisse la précédente. Maintenant, je vais pouvoir...
Exceptionnel, hein, t'as vu. Enfin, c'est... Bon, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. On finit un épisode du CKB Show d'une façon toujours exceptionnelle, puisque tu le sais, vous le savez, vu que vous êtes là. Alors, si vous êtes encore là, vous êtes plutôt nombreux à nous regarder, n'oubliez pas, il faut mettre un pouce en l'air et laisser un commentaire une fois que la vidéo sera terminée, ou revenez demain matin pour laisser un commentaire sur la vidéo YouTube, ça nous aide grandement. Posez des questions, expliquez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous avez aimé, parce que c'est ce qui va aider les prochaines personnes qui vont tomber sur la vidéo à peut-être nous écouter la prochaine fois et peut-être laisser leurs commentaires, leurs avis. Ça va nous éclairer aussi sur des choses qu'on fait bien ou pas bien. Ce soir, c'est la connexion Internet, c'est la webcam qui ne marche pas, mais habituellement, ça marche un petit peu mieux. Et là, on finit avec nos coups de cœur, les fameux coups de cœur, même si tu en as déjà donné plein avec tes jeux. Hein, qu'est-ce que tu aurais aimé proposer aujourd'hui, peut-être pour la fin d'année, à nos poditeurs?
Eh ben, ce que je vais proposer, c'est complètement différent. En fait, c'est une platine. On va rester dans la nostalgie. On parlait des jeux de rôle des années 80. C'est une platine disque vinyle. Voilà, une platine vinyle que je vais proposer. Je fais tout à l'envers aujourd'hui.
C'est ça.
Mais par contre, c'est une platine disque vinyle Bluetooth de chez Sony. Alors, je vais dire la référence juste pour le plaisir.
Parce que c'est Sony, donc il y a forcément des trucs compliqués.
Donc la TD-PS. SLX310BT pour BT pour Bluetooth.
Hein, pour Bluetooth, il n'y a que ça
donc,
qu'on comprend.
L'avantage de cette platine-là, et comme d'autres, hein, c'est de pouvoir se connecter sur des enceintes Bluetooth ou des équipements Hi-Fi qui reçoivent le Bluetooth. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir une super chaîne Hi-Fi avec ampli Yamaha et tout ça qui va bien. Par contre, j'ai une bonne enceinte Bluetooth Harman Kardon et j'ai des vieux vinyles que je voulais quand même réutiliser et je me suis donc offert cette platine vinyle. La connexion se fait super bien, le son est parfait, c'est un vrai bonheur. Je réécoute tous mes vieux vinyles et surtout j'ai commencé à en racheter donc je me fais vraiment plaisir en ce moment avec ça. Et donc voilà, c'est un vrai coup de cœur, je voulais le partager avec vous. C'est un petit peu tech quand même, parce que la platine elle est Bluetooth.
Elle est Bluetooth, ça marche. Non, mais c'est. Tu vois, étonnamment, je me posais la question il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai pas mal de vieux vinyles que j'ai récupérés au fur et à mesure dans la famille, les amis qui ne les écoutent plus, qui les avaient posés, où les pochettes sont juste magnifiques déjà. Et quand tu vois l'objet, je trouve ça intéressant. Je me suis toujours demandé, parce que je ne connais pas vraiment le son des vinyles, même si je l'ai écouté quand j'étais plus jeune, mais quelle est la différence entre un vinyle et un MP3. Et je me posais la question. Il y a une semaine, même pas, tu vois, sur une platine Bluetooth, donc voilà, bonne idée. Puis je viens de regarder, elle n'est pas si chère que ça, donc
220 euros, un truc comme ça.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, elle n'est pas très chère, donc ça reste hyper intéressant. Je vais mettre le lien. Si vous voulez vous la procurer, ça tombe bien, ce sera un lien affilié que je vous donne dans les notes de l'émission. Merci. Comme ça, ça ne vous coûte rien. Et si vous voulez vous faire plaisir, ça rapportera quelques centimes d'euros à My Chromebook en fonction de ce que vous achetez. Merci, super bon truc, j'adore. Alors moi, c'est pas du tout le mien de coup de cœur, même pas du tout musical. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Moi, je voulais vous parler d'une page web, une PWA que j'utilise depuis quelques temps, depuis que Google... comment il l'appelait le tableau blanc de Google, j'ai perdu le nom, l'application du tableau blanc de Google. Comment
Je cherche.
Leaderboard ou je sais pas quoi, enfin peu importe. Ils l'ont arrêté et je cherchais une autre solution et je suis tombé sur une solution qui est juste exceptionnelle, qui s'appelle Excalidro, donc Excalidraw, excalidro.com. C'est un tableau blanc collaboratif, Jamboard. Merci Dominique, c'est Jamboard qu'ils ont abandonné. Donc excalidro.com, c'est un tableau collaboratif virtuel qui permet de dessiner directement des diagrammes très très facilement sur une page blanche. Tu partages ton tableau blanc avec tout le monde et tout le monde peut dessiner, interagir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il simule le trait fait au crayon. C'est bizarre hein, ce que je dis. C'est super facile à utiliser et ça simule vraiment le coup de crayon qu'on peut avoir sur une feuille nous-mêmes et je trouve ça tellement bien fait. C'est complètement gratuit. Tu peux le partager à autant de personnes. Il y a même de l'IA qui vient se greffer dedans. Si vous faites du diagramme, si vous faites des comment on appelle ça, des organigrammes, si vous faites des moi je fais des cartes mentales avec, ça permet vraiment de s'organiser très facilement, très rapidement. Tu le sauvegardes, tu le partages, tu peux le télécharger avec un fond transparent ou pas, et ça marche vraiment très bien. Et en plus, c'est gratuit, donc moi j'adore. Profitez-en si vous voulez l'essayer. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ceux qui sont en live, allez, je vous le mets dans le conducteur. Et voilà, je sais pas ce que si. Quelque chose que tu aurais besoin. Ouais,
je suis en train de la tester pendant que tu parles. Effectivement, la police de caractère de base est vachement sympa.
C'est top, hein. Ouais, je trouve ça génial.
Après, ces solutions-là, c'est sympa. D'ailleurs, parfois, on utilise aussi pour faire du jeu de rôle. Je rebondis là-dessus parce que, comme c'est un endroit sur lequel on peut mettre des images, c'est collaboratif.
Ah bah là, totalement, ouais, effectivement, tu peux faire dessus.
Il manque les jetés de dés, mais bon.
Ah, on peut le rajouter, pas avec ça, mais tu vois, tu peux rajouter des petites flèches, tu peux dédoubler ta flèche, elle peut être courbe, elle peut être arrondie, tu peux mettre du mage. Bref, c'est vraiment super bien fait et elle est en français, et disponible en français, donc ça ne gâche rien pour ceux qui sont allergiques à l'anglais. Moi j'ai quelque chose que j'apprécie.
Non, et puis l'interface,
voilà tout. C'est ça. Ouais, t'as vu, hein. Moi, j'aime beaucoup. Merci Olivier de ta présence. Dernier épisode de l'année, on se retrouve, la première semaine ou deuxième semaine de décembre. En tout cas, on essaiera de vous le dire un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui parce que j'ai été débordé cette semaine et vous avez reçu la notification que ce matin, donc très compliqué pour moi. Merci Olivier, passe de bonnes fêtes de fin d'année.
Apparemment, bonne fête à tout le monde.
Bonne fête et on se revoit très très vite.
J'ai demandé des beaux jouets, alors j'espère que...
J'espère que tu as été sage. J'espère aussi pour toi. En tout cas, passez une bonne fin de journée, une bonne nuit. Et puis, on se revoit très vite pour un prochain épisode du CKB Show. Et je vous dis à tous ciao et bonne fête de fin d'année. Allez, ciao.
Bonne fête à tous. Salut. The book,